Donc, j'invite les trois invités qui vont réagir et donner leurs idées, aller encore au-delà de ces propos, réagir. Donc, voilà, Madame Lapointe, vous revenez avec nous. Je vous les présente, asseyez-vous, il y a trois micros aux chaises. Ça, c'est ma place, Madame Drouin. Vous êtes là plutôt, vous êtes là, c'est ça, les deux conférencières ici. Vous avez un micro avec vous, voilà. Alors, Monsieur André Caron, qui est professeur titulaire au département de communication de l'Université de Montréal et directeur de la chaire Bell en recherche interdisciplinaire sur les technologies émergentes. Bonjour à vous. Madame Najwa Kouli, directrice de projet au Centre francophone d'informatisation des organisations, le CIFRIO, bonjour. Et enfin, Madame Solange Drouin, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de l'Association québécoise de la disque, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo. Elle est également coprésidente de la Coalition canadienne pour la diversité culturelle. Alors, voilà, vous avez entendu ces deux exposés. Vous avez aussi, je pense que vous arrivez chacun et chacune avec vos notes. Monsieur Caron, allez-y. Oui.
Je vais commencer peut-être avec Madame Lapointe, avec la première présentation, mais j'aimerais peut-être juste ouvrir une petite parenthèse avant et indiquer, puis ça n'a aucun lien avec la présentation de Madame Christin, mais sur le fait que... En recherche, on a très souvent, on retrouve très souvent dans les médias des statistiques empruntées aux Américains, par exemple, ou ailleurs, etc., et qu'on calque sur notre environnement à nous, sur notre culture. Et je pense que c'est malheureux qu'on ne fasse pas les nuances dans ces cas-là, parce que essentiellement, il y a de fait des tendances qu'on peut retrouver un peu partout, mais il y a des choses qui sont très particulières ici au Québec. Et je pense qu'on a l'exemple avec ce matin, avec les statistiques qu'on a eues et qu'on a régulièrement. On a avec la recherche. Et je pense que j'aimerais bien que les médias entendent ces statistiques-là et ces résultats-là. Parce que trop souvent, on emprunte justement ailleurs. Ça peut être intéressant, mais on l'applique ici. Et ça, je trouve ça regrettable. Alors, des fois, on l'entend dans les conférences, des fois, on l'entend dans les médias, mais je devais quand même soulever ce point-là. La recherche qui a été présentée, évidemment, vous avez juste vu des brindilles de ça, mais c'est sûrement la recherche la plus détaillée, la plus en profondeur qu'on a ici. Et on sait qu'à 200 km d'ici, on ne valorise pas beaucoup les statistiques, comme Mme la ministre l'a dit, mais je pense que nous autres, on valorise beaucoup. et c'est vraiment un outil incroyable. Je pense qu'il faut quand même se rappeler que lorsqu'on présente ces chiffres-là, c'est pour nous éclairer sur les nouvelles tendances et tout ça. Mais il faut se rappeler aussi que dans notre contexte en ce moment, le tiers ou le quart des gens n'ont pas Internet. Alors donc, on parle de gens qui ont Internet. Il ne faut pas oublier, et ça, je dis ça à tous les organismes, à toutes les institutions, parce qu'on s'imagine, ah, bien, vous voulez telle information, allez sur notre site web, etc. Ben, il y a un quart des gens ou un tiers des gens qui n'ont pas ce site web-là. Alors, on a deux voies à respecter, je pense, puis à assurer lorsqu'on fait ça. Lorsqu'on voit aussi les chiffres Twitter, bon, je ne ferai pas lever la main à combien de gens sont sur Twitter ici, mais c'est moins d'une personne sur 10. Puis on en parle de Twitter, comme si tout le monde l'avait. Les téléphones intelligents au Québec, c'est moins de 10% de la population qui en ont un. Alors, pour les industries culturelles, c'est important aussi d'entendre ça. Parce que si on veut proposer des produits, si on veut en faire une diffusion... il faut tenir compte que malgré tout le brouhaha des médias, il y a une réalité. Puis la réalité, c'est que ce n'est pas 9 personnes
donc
sur 10.
Les clientèles sont beaucoup plus diversifiées que des exposés sur la nouvelle génération, par exemple, pourraient nous laisser croire, c'est certain.
Entre autres. Oui. Alors, dans votre présentation, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'était particulièrement le fait que les choses les plus difficiles à mesurer en ce moment, c'est le temps. Hein, qu'on a. Si je vous demande la semaine dernière combien de temps vous avez passé sur Internet, essayez de faire le calcul personnellement. Et c'est la frontière, justement, entre le divertissement et le travail.
Ouais.
Je ne sais pas, moi, quand j'arrête de travailler puis quand je continue pour le divertissement sur l'Internet. Alors ça, c'est un énorme défi pour les chercheurs. Mm-hmm. Ça, vraiment, là, puis je pense que vous le voyez très bien. Et c'est quelque chose qu'il faut tenir compte parce que ça devient de plus en plus difficile à mesurer, à bien approximer ça. Donc, ma question, je vais arriver à la question, c'est, j'ai été beaucoup intrigué par vos données sur l'Internet à télévision. Je pense que c'est un quart ou 24 % quelque chose comme ça, de gens qui disaient qu'ils avaient regardé la télévision sur Internet. Internet.
C'est bien ça? En direct ou en différé. Okay.
Mais ce n'était pas la même question que combien de... est-ce que vous regardez la télévision tous les jours, hein, je pense? Est-ce que...
okay. Non, vous avez raison, c'est deux questions différentes. Donc, dans un premier temps, on va demander aux gens, dans une journée typique, combien de temps vous passez à écouter la télévision. Et après ça, il y a tout un volet sur l'utilisation que les gens vont faire d'Internet. Et là, bon, il y a une série d'activités qui sont déclinées. Et il y en a une, c'est d'écouter des émissions de télévision, soit en direct, soit en différé.
Voilà, et la moyenne générale, c'est autour de 2h38 hein, pour la consommation de la télé.
Oui, c'est autour de ça. Mais encore là, c'est sûr que si on compare avec des études, comme vous dites, c'est difficile.
Les moyennes sont
toujours
trompeuses aussi.
Oui, c'est sûr qu'il faut regarder la tendance et non pas nécessairement le chiffre, parce que si on compare à d'autres études, ça va varier, c'est certain. Ce qui est important de voir à ce moment-là, c'est vraiment la tendance, parce que comme vous le dites, si on demande aux gens combien de temps, dans une journée typique, vous passez à écouter la télévision, ça se peut qu'il y ait des variations. Il y en a qui vont évaluer à la hausse, d'autres à la baisse, le temps qui passe. Mm-hmm. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir un portrait de la tendance.
Mais est-ce qu'on peut se fier? Est-ce que ça vous a frappé? Les gens qui utilisent Internet plus de 3 heures par jour sont ceux qui consommeraient le plus de livres, qui liraient le plus de livres en plus. Et là, on se disait, est-ce que leur journée ont 28 heures ou 30 heures? Comment on peut concilier tout ça, une telle consommation?
Plusieurs activités en même temps aussi.
On fait deux choses en même temps, c'est ça.
Est-ce que vous avez une question sur les réseaux sociaux?
Oui, il y a une question sur les réseaux sociaux, donc à savoir si les gens, quand ils vont sur Internet, ils vont sur Facebook, par exemple, ou sur ça. Mais honnêtement, je suis désolée, je ne me rappelle pas c'est quoi la proportion de... Il y a tellement de chiffres dans cette enquête-là. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment un petit aperçu de toutes les informations qu'on peut tirer de cette enquête-là. Mais, en tout cas, de mémoire, ce que je m'étais dit, c'est... C'est pas si répandu qu'on le dit. Tu sais, on dit tout le monde a sa page Facebook, mais c'est pas... Il y a quand même beaucoup de gens là, qui en ont, mais ce n'est pas aussi répandu que ce que moi j'aurais pensé.
Mm-hmm. Mais parmi les gens en bas de 30 ans, j'imagine que là, on n'est pas très loin du 40 % probablement.
Bien, comme je vous dis, je ne connais pas tous les chiffres c'est par cœur parce qu'il y a vraiment plus de 200 questions dans le questionnaire. Ouais. Alors, c'est un peu difficile, mais ça, c'est quelque chose, c'est des données qui vont être diffusées dans les prochaines semaines.
Parce que c'est vraiment un phénomène
générationnel. Le groupe le plus en croissance avec Facebook, c'est les femmes de plus de 40 ans.
Ah oui?
Une nouvelle tendance, c'est ça.
Tiens. Étonnant. Pourquoi? On préfère... Ils cherchent un chum, c'est ça? Oh, mais attendez! Et pourquoi laisser Réseau Contact, qui existait déjà depuis longtemps? Parfait. Écoutez, on peut enchaîner. Vos commentaires, Mme Couly, oui.
Alors, en fait, moi, mes commentaires, tout d'abord, j'ai peut-être arrivé avec... Des statistiques supplémentaires. En fait, au CFRIO, je travaille entre autres sur le projet Net Tendance, et puis on a, nous aussi, énormément de chiffres. Et ce qui est intéressant, c'était voir qu'avec votre étude, il y avait pas mal de chiffres qui se recoupaient et qui permettaient de confirmer des tendances. Alors, j'avais, avant d'arriver à des commentaires par rapport à votre étude, peut-être à certains commentaires par rapport à la première présentation de M. Valiquette. En fait, j'avais laissé mon commentaire pour la table ronde qui parlait beaucoup des jeunes et puis de l'arrivée des jeunes sur les réseaux sociaux, de l'arrivée des jeunes avec un fonctionnement différent, etc., etc. Puis moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est d'abord, il en a beaucoup parlé au futur, c'est que ces jeunes-là sont déjà sur le marché du travail en passant. Et puis, ils arrivent déjà, nous, d'après ce qu'on voit, avec des comportements très différents. Alors, il faudrait arrêter de parler de ces jeunes dans le futur, puis de se dire... Ils sont déjà là. Mais mis à part les jeunes, le reste de la population aussi commence et est en train d'adopter ce genre de comportement. Nous, ce qu'on voit dans nos chiffres, c'est Frio, c'est que, par exemple, si on parle de réseaux sociaux, une grosse partie de la population de 35 à 50 ans a rejoint cette année de façon phénoménale les réseaux sociaux. Et puis, c'est la croissance la plus importante. Alors, c'est quand même... On parle donc des personnes de 15 à 54 ans qui seraient de façon très présente sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas un phénomène marginal et ce n'est pas seulement un phénomène de génération.
Non.
Par ailleurs, aussi, ce qu'on a remarqué, parce qu'on calcule aussi un taux d'engagement. Le taux d'engagement sur les réseaux sociaux de toute la population est de 95 % et c'est de 99 % pour les jeunes. Alors, oui, ils le font plus, mais il n'y a pas seulement eux qui le font. Alors ça, c'était un commentaire par rapport à la première présentation. Par rapport à votre présentation, je trouvais intéressant deux éléments que nous-mêmes, on appuie. C'est le fait de dire qu'il faut arrêter de penser qu'Internet va remplacer tout ce qu'il y a comme média aujourd'hui, donc sur la place. En fait, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que les jeunes font tout plus que les autres. Ils vont être sur Internet plus que les autres, ils vont regarder, rechercher des informations sur Internet plus que les autres, mais ils vont regarder aussi la télévision plus que les autres, ils vont lire le journal pas mal plus que les autres, et ils vont se nourrir d'informations très spécialisées, mais d'informations très générales également. Alors je trouvais intéressant que ce soit appuyé aussi dans votre étude, parce que nous, c'est une des hypothèses que l'on pose. Autre élément aussi, alors, c'était de se dire, bah, écoutez, nous, on voit des enjeux, puis peut-être qu'on va avoir l'occasion d'en parler dans d'autres questions, des enjeux qui sont en train d'arriver avec l'arrivée des réseaux sociaux, puis d'arrivée de la mobilité. Oui, il y a certains usages qui restent marginaux, mais il y a d'autres usages qui sont de plus en plus intense et de plus en plus présent. Et là, je parle de l'arrivée du iPad. On a des chiffres là-dessus qui nous montrent, par exemple, qu'auprès de la génération A, qui est la génération qu'on appelle, nous, des aînés, eh ben, il y a très peu d'aînés aujourd'hui, internautes au Québec, qui vont être sur le téléphone mobile. Leur proportion par rapport au reste de la population est vraiment très petite. Par contre, l'écart entre les jeunes et les plus âgés par rapport au iPad est beaucoup moins important. Alors, c'est sûr qu'ici, on parle aussi de facilité que nous permet l'outil technologique, de voir que ben, sur un iPad, les touches sont moins petites, l'écran est plus grand, donc la possibilité de se déplacer pour lire un livre ou de voir des émissions, etc., avec ce nouvel outil, qui est quand même très nouveau, c'est une question de quelques mois, et quand même à observer de très près, et autant pour les jeunes que pour les plus âgés.
Voilà, merci beaucoup, Madame Cooley. Voulez-vous réagir à cela, à ces commentaires-là, ou pour l'instant, ça va tout à fait dans le même sens que vous?
Oui, ben moi, je suis d'accord dans l'ensemble avec ce que vous dites, puis c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que les jeunes, c'est des explorateurs. C'est vrai, d'une génération à l'autre, les jeunes vont vouloir essayer différentes choses. Donc là, comme il y a plus de matériel à essayer, c'est sûr qu'on les retrouve un peu plus partout. Mais de génération en génération, on remarque souvent que les jeunes sont dans une phase d'exploration. Ils veulent se définir, donc ils essaient plein de choses.
Mm-hmm. Ça se vérifie pour les goûts musicaux des jeunes en France comme aux États-Unis. Est-ce que vous avez d'autres indications sur le type de support qu'ils utilisent? Est-ce que c'est la même variété? Est-ce que c'est le même attrait? Est-ce qu'ils ont les mêmes manies, au fond, que les nôtres, de regarder la télé en travaillant, en faisant leurs travaux scolaires, en lisant, en écoutant de la musique? Oui. Bref, le multitâche est répandu aussi.
Eh bien, c'est vrai qu'en tout cas, sur l'enquête américaine et sur l'enquête française, tous les travaux sur les questions de substitution dont vous avez parlé montrent qu'il y a assez peu de substitution, en tout cas en ce qui concerne la musique classique. Donc, enfin, tout ce qui est culture classique, culture légitime. Et donc, en fait, parce que c'était une des grandes questions, c'est-à-dire peut-être que les jeunes vont moins aux concerts de musique classique, mais qu'ils en écoutent
ils
plus
en écoutent sur leur iPod,
sur Internet, et pareil pour les musées et pour les opéras et les pièces de théâtre. Et en fait, dans les deux enquêtes, on voit qu'il n'y a absolument aucune substitution, en tout cas sur la musique classique et l'opéra et le théâtre.
Ah, d'accord. Donc, voilà. Les supports gardent un peu leur spécialité.
En tout cas, en ce qui concerne la culture légitime.
Oui, d'accord. Alors, écoutez, on va poursuivre. Madame Drouin, c'est à vous. Vous avez beaucoup de choses à dire,
oui,
je pense.
Oui, oui, mais pas tout en même temps. Je vais essayer. Quant à la complémentarité des médias, ça, c'est quelque chose que nous, avec toutes les études qu'on fait et qui nous occupe beaucoup, toutes les interventions qu'on a à faire devant le CRTC, à savoir est-ce que la radio traditionnelle est en perte de vitesse, est-ce que c'est le début de la fin, c'est vraiment en lien avec, en tout cas, nous, ce qu'on observait aussi depuis longtemps, c'est-à-dire que les nouveaux, la radio ou Internet, qui en bénéficie le plus en termes de radio, c'est la radio traditionnelle, parce que, je ne sais pas si vous étiez allé dans ce détail-là, mais ce qui est écouté comme radio sur le net, c'est les radios traditionnelles à 80 %. Alors, c'est finalement une nouvelle plateforme pour eux qui peuvent exploiter. Et d'ailleurs, ce qu'on sait, c'est que maintenant, en termes de revenus publicitaires, ils essaient de plus en plus de monnayer cet aspect-là, parce que maintenant, ils offrent non seulement à leurs clients, non seulement tout ce qu'il y a comme audience sur la radio traditionnelle, mais aussi sur ce qui se multiplie aussi sur l'Internet. Alors, quand on voit que les gens passent beaucoup de temps sur Internet, c'est ça, de voir qu'est-ce qu'ils font, évidemment. Il y a l'écoute de la radio et là-dedans, je pense qu'il faut rajouter ce chiffre-là, en tout cas à 80% à l'écoute de la radio traditionnelle. En tout cas, nous, c'est tout à fait en lien. On était bien heureux de lire ça de vos... On va s'en servir au CRTC. En espérant qu'ils nous écoutent. Et ça, c'est un autre débat. Pour ce qui est de l'étude, vous concluez avec le fait que l'Internet, c'est un grand stimulateur culturel. Et je suis quand même surprise de voir, puis peut-être que c'est ailleurs dans l'étude, quand on dit les gens font beaucoup de choses sur Internet, vous n'avez pas... vous avez parlé de production, de distribution, et de vous parlez pas de consommation, dans le sens, est-ce que les gens, ils écoutent des émissions de télévision, ils écoutent de la musique, mais le font-ils de façon légale ou illégale? Ça, c'est pas du tout quelque chose qui est sur votre radar, ou vous l'avez pas peut-être...
Non, effectivement, lors de l'enquête précédente, on avait parlé de téléchargement payant ou gratuit. Puis en 2009, c'est un aspect qui a été mis de côté parce que justement, on disait, quand on questionne les gens sur leurs habitudes de fréquentation de la bibliothèque, par exemple, on ne leur demande pas s'ils vont lire un livre ou s'ils vont voler un livre. Ce qui fait que, on se sentait un peu mal à l'aise de mettre ces questions-là pour la musique. Puis on se disait que de toute façon, il risquait d'y avoir un gros impact sur la désirabilité sociale. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, effectivement, mais c'est quelque chose qu'on a laissé de côté pour l'enquête 2009.
Oui. Est-ce que je peux répondre à votre question? Nous, on le mesure.
Oui, puis ensuite, oui, allez-y.
Et puis ensuite, Mme Christine, ce qui nous a vraiment surpris, parce qu'on a eu les résultats il y a à peine un mois, ils ont même pas été publiés encore, ce qui nous a énormément surpris, c'est que ceux qui téléchargent le plus la musique, c'est bien entendu les jeunes, mais que quel que soit le groupe d'âge que l'on observe, le téléchargement de la musique légale, gratuitement, excusez-moi, versus de façon, en l'achetant versus de façon plus piratée, est quasiment égal. Donc, on a à peu près 22% de la population qui va télécharger de la musique, et puis on en a autant qu'ils vont le faire de façon légale que
donc 22% à peu près dans les deux cas.
Dans les deux cas, exactement. Voilà. Et c'est vraiment cette même proportion va à la baisse, mais elle est toujours la proportion entre légal et versus non est toujours identique. Mais avec un total à la baisse, bien entendu.
Madame Christin, là-dessus?
Oui, c'est vrai que juste pour prendre l'exemple des enquêtes françaises et américaines, donc j'avais participé à l'élaboration du questionnaire français. De l'enquête sur les pratiques culturelles des Français, et en fait c'est des questions extrêmement sensibles parce qu'il y a des questions de confidentialité qui sont terribles, et donc concrètement on avait été voir la CNIL, qui est la commission qui s'occupe des questions de confidentialité dans les questionnaires, et ils avaient absolument refusé, enfin ils étaient absolument impossible de poser une question sur le téléchargement illégal, je veux dire c'est donc, en tout cas, dans les comparaisons internationales, je ne connais pas d'enquête où il y ait des questions, d'enquête nationale publique, où il y ait des questions sur le téléchargement illégal.
Si vous permettez, pour contourner ce problème-là, nous, on demande, est-ce que vos amis téléchargent illégalement?
Ah! Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui téléchargent? Madame Drouet.
Mais peut-être, parce que quand vous concluez, je reviens à l'étude québécoise, quand vous concluez pour il faut absolument, et c'était votre conclusion, réduire les inégalités d'accès parce que l'Internet est un stimulateur culturel. C'est clair que je me dis, c'est bien tout à fait, il faut que l'accès soit le plus large possible dans toutes les régions du Québec, évidemment, mais je pense qu'on ne peut pas le voir de façon isolée. Si on augmente évidemment l'infrastructure, si on veut que les gens aient accès, il va falloir s'occuper aussi de l'offre légale ou illégale, parce que si on augmente l'infrastructure puis on ne se soucie pas de l'offre légale, on va juste favoriser l'illégalité. Et je pense, en tout cas dans certains cas, comme la musique, c'est sûr, c'est clair que même si les gens disent qu'ils copient pas plus que ça, les chiffres de vente de disques sont tellement à la baisse, et la progression des chiffres sur le numérique, en tout cas au Québec, Bon, c'est en progression, mais c'est encore des très petits nombres. C'est quelque chose qui stagne déjà aux États-Unis. Mm-hmm. Alors, mais c'est clair qu'on est en période de transition. Oui. Ce que moi, votre étude dit, c'est que le passé est toujours là, c'est-à-dire le traditionnel est toujours là, mais on s'en va vers autre chose. Mm-hmm. Dans quelle proportion ce sera demain? Est-ce que ça sera 50-50? Est-ce que ça sera 20-20 les nouveaux supports versus 80? Mm-hmm. C'est très mouvant, là. C'est ce qu'on
oui,
dit.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. L'idée, c'est pas de le voir comme un élément isolé, puis en faisant fi de l'aspect légal ou illégal de la chose, mais c'est de dire aussi, puis vous l'avez dit, bien, la plupart des gens, quand ils écoutent la radio, par exemple, sur Internet, ce qu'on réalise, c'est que ça sert la radio traditionnelle. Mm-hmm. Donc, comme on voit qu'il y a un support qui est Internet, qui permet d'avoir accès à la culture d'ici, la culture d'ailleurs, qui permet de, bon, même si on peut être un peu fatigué de se voir sur le net, bien, il y a pour des gens que c'est une forme de création et ils ont besoin de ça. Donc, c'est comme vraiment un véhicule de plus en plus important, c'est dans ce sens-là que je le vois comme un stimulateur. Ça peut être aussi une nouvelle plateforme de diffusion. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, mais évidemment, c'est pas, l'idée n'est pas de faire fi de tout l'aspect légal.
Il me semble qu'il y a quand même une contradiction. Vous dites que les jeunes aux États-Unis et en France sont des omnivores musicaux et que, voilà, peu importe la classe sociale, au fond, les gens plus riches ou plus fortunés ou plus scolarisés ont tendance à s'ouvrir davantage. Mais en même temps, ce que vous dites pour le Québec, c'est que les jeunes qui vont écouter sur Internet de la musique écoutent les mêmes 50 succès qu'ils entendent à la radio commerciale. Alors, où est l'ouverture musicale dans ce cas-là? C'est-à-dire, où est la diversité? Si on va consommer sur des supports modernes la même culture populaire ou classique que l'on consommait déjà, il n'y a pas vraiment d'ouverture. Alors, pourquoi est-ce que l'Internet serait un stimulateur culturel si ça ne va pas dans le sens d'une ouverture à un plus grand champ culturel?
Enfin. Est-ce que je peux rire?
Oui.
Juste deux commentaires rapidement. Je pense qu'il faut faire attention avec l'étiquette jeune, parce qu'on a entendu dans la présentation de Mme Christine, c'était 35 ans et moins, ce qui m'a... Je trouve que c'est bien, 35 ans et moins, c'est déjà bien. Mais dans d'autres, c'est 18 ans et moins, dans d'autres, c'est les adolescents, etc. Donc, je pense, d'une part, il faut faire attention à ça. Dans nos études, on se rend compte maintenant que ce n'est plus de l'intergénérationnel, c'est de l'intragénérationnel, et qu'une période de 5 ans fait une énorme différence.
Définit une génération,
c'est ça. Alors, puis vous regardez dans vos enfants, dans vos petits-enfants, etc., qui a 18 ans ou qui a 23 ans, c'est deux mondes différents, 13 ans. Alors, maintenant, il faut regarder ça dans un découpage beaucoup plus fin, parce qu'on l'a vu ce matin avec les iPods, 11 générations en 10 ans, je dirais.
Bon, c'est la même chose. En 8 ans, même,
Mais pour la question de culture, puis Mme Christine, sur ce que vous avez présenté, je pense que le terrain s'est préparé il y a déjà 10-15 ans. C'est-à-dire que cette démocratisation de la culture avec un grand C, si on veut l'appeler comme ça, c'est Pavarotti qui l'a fait quand il a commencé à chanter avec des rock stars. C'est Nagano maintenant qui va dans les hangars de Molson, etc. Donc, c'est un peu comme on a commencé à mettre la culture populaire dans des lieux sacrés. Et on a commencé à sortir des lieux sacrés, la musique, disons, plus culturelle en tant que telle. Oui. Et donc, je pense que la variable cachée dans votre présentation, ce sont les médias. Ce sont les médias qui ont ouvert ça, qui ont contaminé la jeunesse et peut-être moins les plus vieux, mais certainement la jeunesse.
Les médias traditionnels.
Médias traditionnels et nouveaux médias, deux. C'est une combinaison des deux. Et maintenant, quelqu'un comme, je ne sais pas, un Nagano est un people, est un pop star, quasiment, je dis en tant que tel. Et je pense qu'aux États-Unis, il y avait peut-être une tradition ou des industries culturelles qui véhiculaient davantage ça.
Un plus grand métissage.
Et qu'en Europe, on le trouve maintenant aussi. Mais je veux dire, je pense que ça explique une partie.
Oui. Alors là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'effectivement, là, j'ai parlé que du côté de la réception culturelle. Mais le côté de la production culturelle est également extrêmement important. Et donc, tous ces processus que vous dites de métissage, en effet, donc vous parlez de la musique, mais on peut aussi penser, par exemple, au musée d'art contemporain, avec le développement l'affaiblissement des frontières entre culture légitime et culture populaire, l'inclusion d'éléments de la pop culture dans des musées d'art contemporain. Et après, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une influence causale quelque part? Est-ce que c'est le changement de la production culturelle qui a influencé les changements de la réception culturelle? Impossible de savoir, c'est un peu la poule et l'œuf. Donc, en tout cas, les deux ont évolué de concert et effectivement, les médias ont eu un rôle amplificateur. Vous avez tout à fait raison là-dessus, oui.
Madame Drouin,
Quant à justement, c'est parce que la question du panel, c'est vraiment la diversité culturelle. Mm-hmm. Est-ce que finalement, en tout cas, moi, comment je l'ai comprise, c'est est-ce que Internet favorise une plus grande diversité culturelle? Et je m'y réfléchis, et on a réfléchi à la disque. Et pour moi, c'est clair que sur Internet, maintenant, il y a une abondance de contenu, et c'est très bien. Tout le monde est là. Rares sont ceux qui n'y sont pas. Mais il y a un problème, mais ça ne garantit pas pour autant un public. Ça ne garantit pas pour autant qu'on est... Oui, on est accessible, mais est-ce qu'on nous trouve? C'est ça le problème. On est plus noyé qu'on l'était. Je vous donne... essayez d'aller dans un magasin de disques. Chez Archambault, il y a 50 000 disques. Puis dites... trouver un artiste que vous ne connaissez pas là-dedans. Est-ce que vous allez regarder les 50 000 titres? C'est clair. Pour moi, c'est juste un plus gros magasin. Il est immense, ce magasin-là. Et pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que ceux qui bénéficient de ce nouveau grand magasin-là, c'est ceux qui l'envahissaient déjà et qui étaient... Pour moi, c'est pas un argument, c'est pas un outil de diversité, c'est un outil encore plus performant de rouleau compresseur. Parce que ce dont je parlais à la pause, c'est qu'aux États-Unis, justement, pour prendre un chiffre états-unien, parce qu'on pense que le marché étant... On sort 100 000 disques aux États-Unis différents par année. Et il y en a seulement 2 000 qui atteignent la barre des 10 000 copies, les 5 000 copies vendues. Et ça, c'est dans le monde physique. Et sur Internet, les 50, il y a 230 millions, en 2009, il y a eu 230 millions de downloads. Et il y a 50 sites qui se sont accaparés 70 millions de downloads. Alors, c'est très, très, très concentré encore. Et c'est ceux qui bénéficient de ce nouveau marché-là, c'est more of the same qu'on a. Mm. Et c'est ce que les gens font avec Internet pour l'instant. Malheureusement, oui, ça se peut qu'il y a un producteur avec qui je discutais la semaine passée qui me disait, oui, j'ai eu des ventes en Australie des cow-boys fringants. Mais on ne m'a pas envoyé un chèque encore d'Australie parce que je n'ai pas atteint le 150 000 $ encore pour recevoir un chèque d'Australie. Alors, avant qu'on ait des revenus suffisants pour faire une tournée en Australie avec les cow-boys fringants, ça va prendre du temps. Alors, mais c'est beau. Quand on le regarde en termes d'accès, c'est bien. C'est probablement des Québécois qui sont là-bas en Australie qui se disent, je vais pouvoir voir les cow-boys, je peux acheter leurs disques. Mais en même temps, moi, c'est complètement une lubie encore, cet Internet. De penser que c'est vraiment un outil de porteur de diversité. Il y a des exemples, il y a évidemment des exemples tout le temps, on les compte sur les doigts d'une main. Quand tu es un nouvel artiste et que tu veux faire ta place sur Internet, il ne suffit pas d'être là. Ça prend une batterie de monde,
une structure
pour que tu puisses te démarquer parce que la piscine est encore plus grande.
Ouais. Voilà.